Chapitre 4 Récit de l'homme chauve. Nous suivîmes l'Indien à travers un corridor sale, mal éclairé et plus mal tapissé encore. Arrivé au fond, il ouvrit une porte sur la droite et nous aperçûmes à la clarté d'une lampe un petit homme à la tête pointue dont le crâne luisant dominait une couronne de cheveux roux à la manière d'un pic neigeux émergeant des sapins. Il se tortillait les mains sans interruption et ses traits n'étaient jamais au repos, se contractant tantôt dans un sourire, tantôt dans une affreuse grimace. Sa lèvre pendante laissait voir une rangée proéminente de dents jaunes et mal plantées qu'il cherchait vainement à dissimuler en passant constamment la main sur la partie inférieure de son visage. Malgré sa calvitie, il avait l'air plutôt jeune et n'avait en effet qu'une trentaine d'années.
« Votre serviteur !»
Miss Marston, répéta-t-il à plusieurs reprises d'une voix grêle et stridente.
« Votre serviteur, messieurs, entrez, je vous prie, dans mon petit sanctuaire. C'est tout petit, mademoiselle, mais meublé selon mes goûts, une véritable oasis de l'art dans le désert bruyant des quartiers sud de Londres. »
L'aspect de l'appartement dans lequel il nous introduisit nous frappa de surprise. En rencontrant cette pièce luxueuse dans cette misérable maison, on ressentait l'effet que produirait la vue du diamant le plus rare enchâssé dans une vulgaire monture de cuivre. Les murs étaient recouverts des tentures et des tapisseries les plus riches, relevées çà et là, pour laisser voir quelques vases d'Orient ou quelques tableaux luxueusement encadrés. Le tapis noir et jaune était si moelleux et si épais que le pied s'y enfonçait agréablement comme dans un lit de mousse. Deux énormes peaux de tigre jetées négligemment par terre et un grand narguilé posé sur une natte dans un coin complétaient ce tableau de luxe oriental. Au plafond était suspendue par un fil d'or presque invisible une lampe en forme de colombe qui répandait en brûlant un parfum aromatique.
« Je suis monsieur Thaddeus Sholto, » fit le petit homme tout en continuant à grimacer et à sourire. « Vous êtes Miss Marston, naturellement, et ces messieurs... »«
Monsieur Sherlock Holmes et le docteur Watson. »«
Un docteur, vraiment ?» cria-t-il très excité. « Avez-vous votre stéthoscope, docteur, puis-je vous demander, seriez-vous assez bon ? Enfin, voilà, j'ai beaucoup d'inquiétudes au sujet de ma veine cave, et si vous aviez la complaisance... Oh, pour la horse, je ne crains rien, mais au sujet de la veine cave, je tiendrai infiniment à voir votre opinion. »
J'auscultais son cœur comme il le demandait, sans y rien trouver d'anormal. Seulement, au tremblement qui le secouait de la tête aux pieds, il était facile de constater la fraîcheur qui l'agitait. « Tout me semble fonctionner régulièrement, dis-je. Vous n'avez rien à craindre. »«
Vous voudrez bien excuser mon inquiétude, n'est-ce pas, Miss Marston ?» reprit-il tout joyeux. « Oh, je suis bien malade et depuis longtemps j'avais de grandes craintes. Aussi suis-je enchanté d'apprendre quels sont son motif. Si votre père, Miss Marston, avait mieux soigné sa maladie de cœur, il serait encore vivant à l'heure qu'il est. »
Je fus révolté d'entendre cet homme parler de cette façon légère et brutale d'un sujet aussi douloureux. Miss Marston devint d'une pâleur de cire et fut obligée de s'asseoir.
Ah, mon cœur! « M'avait bien dit qu'il n'était plus de ce monde, » murmura-t-elle. Oh, « Je puis vous donner tous les renseignements à ce sujet, » ajouta-t-il, « et qui plus est, vous faire rendre justice, et je le ferai, je vous le jure, malgré tout ce qu'essaiera de dire mon frère Bartholomé. Je suis très heureux d'avoir ici vos amis, car ils ne vous serviront pas seulement d'escorte, mais ils seront encore les témoins de ce que j'ai à vous révéler. À nous trois, nous sommes de force à résister à Bartholomé, mais ne nous adoignons aucun étranger, aucun homme de la police. Nous pouvons tout arranger entre nous d'une manière satisfaisante, sans l'aide de personne, et rien ne déplairait plus à mon frère que de mêler le public à nos affaires. Il s'assit sur un siège très bas et nous regarda en faisant clignoter ses yeux clairs de myope.
Pour ma part, dit Holmes, je puis vous assurer que tout ce que vous nous confierez ne sortira pas d'ici.
J'inclinai la tête en signe d'assentiment.
Parfait, parfait, dit-il. Puis-je vous offrir un verre de Chianti, Miss Marston, ou du Tokaï?
Oh, je n'ai pas d'autre vin ici. Voulez-vous que je débouche une bouteille?
Non, bien, bien. J'espère que vous ne craignez pas l'odeur du tabac, l'odeur balsamique du tabac oriental. Je suis un peu nerveux et mon narguilé est pour moi un calmant inappréciable.
Il alluma son instrument et la fumée se mit à filtrer en chantant à travers l'eau de rose. Nous étions tous trois assis en demi-cercle, la tête appuyée sur la main, tandis qu'au centre, l'étrange petit être au long crâne luisant tirait nerveusement de courtes buffées du long tuyau qu'il avait appliqué à ses lèvres.
Lorsque je me décidai à vous faire cette communication, commença-t-il, j'aurais pu vous donner mon adresse, mais j'ai craint que vous n'accédiez pas à ma demande et que vous m'ameniez avec vous des gens qui m'auraient déplu. J'ai donc pris la liberté de vous fixer un rendez-vous qui permit à mon serviteur Williams de vous dévisager d'abord. J'ai la confiance la plus entière dans sa discrétion et dans le cas où son inspection ne l'aurait pas satisfait. Il avait des ordres pour s'en tenir là. Vous ne m'en voudrez pas de ces précautions, n'est-ce pas? Mais je suis un peu sauvage et très raffiné dans mes goûts. Or, je trouve qu'il n'y a rien de plus contraire à l'esthétique qu'un agent de police. J'ai une répulsion instinctive pour le réalisme brutal, quelle que soit sa forme, et je me mets rarement en contact avec la foule vulgaire. Aussi, je vis, comme vous pouvez le voir, au milieu d'une certaine élégance, et je crois que je peux m'intituler l'ami des arts. Que voulez-vous? C'est là ma toquade. Tenez, ce paysage est un coro authentique, et quoiqu'un expert puisse émettre quelques doutes sur ce Salvator Rossa, il n'y a pas d'erreur possible au sujet de ce bourguereau. Je dois vous avouer mon faible pour l'école française moderne.
Pardon, monsieur Sholto, interrompit Miss Marston, mais je suis ici sur votre demande pour entendre une communication que vous avez témoigné le désir de me faire. Il est déjà fort tard et je voudrais que notre entrevue fût aussi courte que possible.
Dans tous les cas, elle ne pourra qu'être assez longue, répondit-il, car nous serons certainement obligés d'aller jusqu'à Norwood et de voir mon frère Bartholomé. Nous irons tous ensemble et nous tâcherons d'avoir le dessus. Il est furieux contre moi pour avoir pris le parti qui me semblait le seul juste. J'ai eu une scène affreuse avec lui hier soir, et vous ne pouvez vous imaginer combien il est terrible quand il se met en colère.
Si nous devons aller à Norwood, il serait peut-être préférable de partir sur l'heure, hasardai-je. Le petit homme partit d'un tel éclat de rire qu'il en devint cramoisi.
Voilà qui ne serait pas à faire, s'écria-t-il. Je ne sais pas bien comment nous serions reçus si je vous amenais ainsi à l'improviste, sans que vous connaissiez d'abord nettement la situation. Je vais donc vous l'exposer, mais je dois avant tout vous prévenir qu'il y a plusieurs points dans cette histoire que moi-même j'ignore complètement. En conséquence, je ne puis vous répéter que ce que je sais. Comme vous l'avez sans doute deviné, mon père était le major Sholto, ex-officier de l'armée des Indes. Il prit sa retraite il y a environ 11 ans et vint habiter Pondichéry Lodge, dans le quartier d'Upper Norwood. Ayant fait de bonnes affaires aux Indes, où il avait ramassé une jolie fortune, il en avait rapporté une importante collection de curiosités et avait ramené un personnel indien. Il acheta donc une maison et y vécut avec un grand luxe. Il n'a jamais eu d'autres enfants que mon frère jumeau, Bartholomé et moi. Je me rappelle parfaitement le bruit que fit la singulière disparition du capitaine Marston. Nous en lûmes les détails dans les journaux avec le plus grand intérêt, puisqu'il avait été l'ami de notre père, et nous discutâmes librement l'affaire devant lui. Il mêlait ses suppositions aux nôtres,
et nous n'eussions jamais pu croire qu'il était le seul à connaître ce qui s'était passé et la triste fin d'Arthur Marston. Ce que nous savions toutefois, c'est qu'un danger mystérieux mais réel menaçait votre père. Il n'aimait pas sortir seul, et il avait toujours comme portier à Pondicherry Lodge deux lutteurs de profession. Williams, qui vous a conduit ici, était l'un d'eux. Il a été un champion connu en Angleterre. Notre père n'avait jamais voulu nous spécifier ses craintes, mais il professait une aversion marquée pour tout individu ayant une jambe de bois. Un jour même, il tira sur un homme affligé de cette infirmité et qui se trouva être tout simplement un pauvre colporteur parfaitement inoffensif. Nous avons dû même payer une grosse somme pour étouffer cette affaire. Mon frère et moi, nous avions toujours pensé que c'était là une simple lubie de notre père, lorsque l'avenir se chargea de nous prouver le contraire. Au commencement de 1882, mon père reçut des Indes une lettre qui le bouleversa de la plus étrange façon. En la lisant au déjeuner, il faillit se trouver mal, et c'est depuis lors qu'il est allé en s'affaiblissant jusqu'à sa mort. Il nous fut impossible de découvrir ce que contenait cette lettre. Nous avions seulement pu constater qu'elle était courte et écrite par une main inexpérimentée. À partir de ce moment, le spleen dont le major se plaignait depuis des années ne fit qu'augmenter rapidement, si bien qu'un jour, vers la fin d'avril, on nous avertit que tout espoir était perdu et que notre père nous demandait pour nous faire une dernière communication. Lorsque nous entrâmes dans sa chambre, il était soutenu par des oreillers et ne respirait plus que péniblement. Il nous pria de fermer la porte à clé et de nous mettre chacun d'un côté de son lit. Puis, saisissant nos mains, il nous fit d'une voix brisée par l'émotion autant que par la souffrance l'étrange récit que je vais tâcher de vous répéter le plus fidèlement possible. Dans ce moment suprême, dit-il, il n'y a qu'une chose qui pèse sur ma conscience. C'est la manière dont je me suis conduit vis-à-vis de la fille du malheureux Marston. La maudite avarice, qui a été toute ma vie mon défaut capital, m'a fait retenir et garder la moitié du trésor qui aurait dû lui appartenir. Et cependant, je n'ai pas joui moi-même de ses richesses, tant l'avarice est un vice aveugle et absurde. Le fait seul de la possession était pour moi une telle jouissance que je ne pouvais même supporter l'idée d'un partage. Voyez, ce collier de perles à côté de ce flacon de quinine, je n'ai pas encore pu me décider à m'en séparer, quoique je l'ai sorti avec l'intention de l'envoyer à cette jeune fille. Vous, mes fils, vous lui donnerez, n'est-ce pas, une bonne part du trésor d'Agra? Mais ne lui envoyez rien, même pas ce collier, avant que j'aie quitté ce monde. Après tout, il y a eu des gens aussi malades que moi, et qui se sont remis. Je vais vous raconter maintenant comment est mort Marston. Depuis des années, il avait une maladie de cœur qu'il cachait à tout le monde et que moi seul connaissais. Pendant notre séjour aux Indes et par une suite de circonstances extraordinaires, nous fûmes tous deux mis en possession d'un trésor considérable. Je l'avais rapporté en Angleterre et quand Marston y arriva à son tour, il débarqua directement chez moi pour réclamer sa part. Il était venu à pied de la gare ici et fut introduit par mon fidèle et vieux Lyle Shudar, qui est mort depuis. Marston et moi n'étions pas d'accord quant au partage du trésor, et nous en vîmes à échanger des paroles fort aigres. À un moment, Marston bondit de sa chaise au paroxysme de la colère, mais soudain, il porta la main à son cœur, son visage devint bleuâtre et il tomba à la renverse. Dans sa chute, il heurta le coin du coffre qui renfermait le trésor et se vit au front une profonde blessure. Lorsque je voulus le relever, je constatai avec terreur qu'il avait cessé de vivre. Pendant quelques instants, je restai là, à moitié fou, me demandant ce que je devais faire. Mon premier mouvement avait été naturellement d'appeler au secours, mais je me rendais compte combien je risquais d'être pris pour un simple assassin. Cette mort subite au cours d'une dispute, cette blessure à la tête, tout semblait m'accuser formellement. De plus, une enquête judiciaire aurait révélé tout ce qui était relatif au trésor, et c'était ce que je voulais éviter à tout prix. Morstan m'avait dit que personne au monde ne savait où il était allé. Alors pourquoi l'aurait-on découvert plus tard? J'en étais là de mes réflexions lorsque j'aperçus sur le pas de la porte l'Aïchoudar. Il entra doucement, en fermant la porte à clé derrière lui. « Ne craignez rien, Sahib, dit-il, personne ne saura que vous l'avez tué. Cachez le cadavre, et bien voilà celui qui découvrira quelque chose. »« Mais je ne l'ai pas tué, fis-je. » L'Aïchoudar secoua la tête en souriant. « J'ai tout entendu, Sahib, reprit-il, j'ai entendu la dispute. » J'ai entendu le coup. J'ai un sceau sur les lèvres. Tous dorment dans la maison. Je vais vous aider à dissimuler le corps. Ceci suffit à me décider. Si mon propre serviteur ne croyait pas à mon innocence, comment aurais-je pu espérer la faire prévaloir devant une douzaine de jurés plus ou moins ineptes? L'Aïchoudar et moi nous cachâmes le cadavre le même soir. Et quelques jours après, tous les journaux de Londres ne parlaient que de la disparition mystérieuse du capitaine Morstan. Vous voyez par ce récit que je n'ai rien à me reprocher à ce sujet. Mais où je suis coupable, c'est d'avoir caché non seulement le cadavre, mais encore le trésor, et d'avoir gardé par-devers moi la part de Morstan comme si elle m'appartenait. Je désire donc que vous fassiez une restitution. Approchez votre oreille de mes lèvres. Ce trésor est caché dans... Juste à ce moment, nous vîmes les traits de notre père se bouleverser d'une façon effroyable. Ses yeux s'ouvrirent démesurément, ses dents s'entrechoquèrent et il cria d'une voix que je n'oublierai jamais. « Oh, ne le laissez pas entrer, pour l'amour de Dieu, ne le laissez pas entrer !» Nous nous retournâmes tous deux vers la fenêtre en suivant la direction de son regard, et nous pûmes distinguer malgré l'obscurité extérieure un individu dont le visage s'écrasait contre la vitre. C'était un homme à la barbe longue, à la chevelure inculte, dont le regard exprimait d'une façon terrible la haine et la férocité. Mon frère et moi nous bondîmes vers la fenêtre, mais l'homme avait déjà disparu. Lorsque nous revînmes auprès de mon père, sa tête s'était inclinée sur sa poitrine et son cœur avait cessé de battre. Ce soir-là, nous parcourûmes le jardin dans tous les sens sans trouver trace de l'individu qui nous avait apparu. Nous relevâmes seulement sur la plate-bande au-dessous de la fenêtre la trace d'un seul pied. Sans cette empreinte, nous aurions pu supposer que cette figure sauvage et terrible n'était qu'un jeu de notre imagination. Mais bientôt nous eûmes une preuve plus frappante encore, qu'il se tramait quelque chose dans l'ombre autour de nous, car le lendemain matin, on constata que la fenêtre de mon père avait été ouverte, que tous les meubles avaient été fouillés et sur la poitrine du cadavre était épinglé un chiffon de papier qui portait ces mots « La marque des quatre ». Que signifiait cette phrase? Quel avait été le mystérieux visiteur de la nuit? Nous ne le sûmes jamais. Selon toute apparence, rien n'avait été volé, quoique tout eût été mis sans dessus dessous. Naturellement, mon frère et moi, nous fîmes un rapprochement entre cet étrange incident et les craintes qui avaient hanté mon père de son vivant. Cependant, jusqu'ici, tout cela est resté encore une énigme pour nous. Le petit homme s'arrêta pour allumer son narguilé et pendant quelques instants sembla suivre sa pensée dans les nuages de fumée dont il s'enveloppait. Nous avions tous été vivement impressionnés par ce récit extraordinaire. Aux quelques mots qui avaient eu trait à la mort de son père, Miss Marston était devenue blême, et j'eus même un instant la crainte qu'elle ne se trouvât mal. Je saisis une carafe en verre de Venise qui se trouvait à ma portée et lui versai un verre d'eau. Sherlock Holmes se tenait renversé sur sa chaise, avec cette expression absente qu'il savait prendre, les paupières baissées comme pour voiler l'éclat de son regard. En portant mes yeux sur lui, je ne pus m'empêcher de penser que le matin même, il s'était encore plaint amèrement de la monotonie de la vie, et voilà que nous nous trouvions tout à coup en présence d'un problème qui demandait pour le résoudre toutes les ressources de sa sagacité. Monsieur Thaddeus Sholto nous regarda alternativement avec une satisfaction évidente en constatant l'effet que son récit avait produit sur nous. Il reprit, tout en tirant de temps en temps quelques bouffées de sa pipe, « Comme vous pouvez le penser, nous fûmes, mon frère et moi, très excités par l'idée de ce trésor auquel notre père avait fait allusion. Pendant des semaines, pendant des mois, nous fouillâmes tous les coins du jardin, nous le mîmes sans dessus-dessous, sans arriver à rien découvrir. Cela nous rendait fous de penser que le major allait nous révéler l'endroit de la cachette au moment précis où il avait expiré. Nous pouvions nous faire une idée de la splendeur des richesses cachées par le collier de perles qui en avait été distrait, et même, au sujet de ce collier, nous eûmes, mon frère et moi, une légère discussion. Les perles avaient évidemment une valeur considérable, et lui ne voulait pas s'en séparer, car entre nous, Bartholomé a un peu hérité du vice paternel. Il prétendait qu'en offrant ce bijou à celle auquel notre père le destinait, cela ferait jaser et pourrait nous attirer des désagréments. Tout ce que je pus obtenir fut l'autorisation de rechercher l'adresse de Miss Marston et de lui envoyer une perle séparée à intervalles fixes afin qu'elle sût bien qu'on ne l'oubliât pas. Ah, c'était une pensée très charitable de votre part, interrompit Miss Marston. Vraiment, vous vous êtes montré bien bon pour moi. Le petit homme joignit les mains d'une façon suppliante. Oh, nous n'étions que vos fidéi commissaires, dit-il. Du moins, c'est ainsi que j'envisageais la chose, quoique Bartholomé ne fût pas tout à fait de mon avis. Nous étions assez riches par nous-mêmes, je ne désirais rien de plus. D'ailleurs, il aurait été de bien mauvais goût de se conduire vis-à-vis d'une jeune personne d'une façon aussi mesquine. Les Français, qui ont vraiment une façon charmante de dire les choses, affirment que le mauvais goût mène au crime. Quoi qu'il en soit, notre désaccord à ce sujet devint si aigu que je jugeais préférable de renoncer à la vie en commun. Je quittai donc Pondichéry Lodge, emmenant avec moi dans ma nouvelle demeure Williams et le vieux Kitburga. Mais hier j'appris un événement de la plus haute importance. Le trésor venait d'être enfin retrouvé. Je me mis sur l'heure en rapport avec Miss Marston, et nous n'avons plus maintenant qu'à aller jusqu'à Norwood en réclamer notre part. Déjà hier soir, j'ai formulé mes intentions à mon frère, et si nous ne devons pas espérer être les bienvenus chez lui, nous sommes sûrs en tout cas d'être attendus. Monsieur Thaddeus Sholto avait cessé de parler et continuait de se trémousser sur ses luxueux coussins. Pour nous, nous gardions le silence, absorbés par la pensée des nouvelles complications qui surgissaient de cette mystérieuse affaire. Holmes fut le premier à se ressaisir et se leva brusquement. « Vous avez parfaitement agi, monsieur, dit-il, depuis A jusqu'à Z. Peut-être serons-nous assez heureux en retour pour éclaircir les points qui restent encore obscurs à vos yeux. Mais comme le disait Miss Marston, il y a un moment, Il est déjà tard et il vaudrait mieux poursuivre notre enquête le plus rapidement possible. Sans se faire prier davantage, notre nouvelle connaissance roula le tuyau de son narguilé et alla chercher derrière un rideau un long pardessus ouaté garni d'un col et de manchettes d'astrakan. Après l'avoir revêtu, il le boutonna jusqu'en haut, malgré la douceur de la température, et compléta son accoutrement en mettant sur sa tête une toque de castor munie d'oreillères, tombant de chaque côté de sorte qu'on ne voyait plus de lui que son nez pointu et sa bouche grimaçante.
« Ma santé est bien délicate, dit-il en nous montrant le chemin, et je me vois réduit à vivre comme un pauvre infirme. »
Un fiacre nous attendait à la porte et tout était évidemment prévu d'avance, puisque dès que nous y fûmes montés, le cocher partit d'une allure rapide. Thaddeus Sholto parlait sans discontinuer sur un ton perçant qui dominait le bruit de la voiture.
« Bartholomé est un garçon bien intelligent, dit-il. Devinez comment il découvrit le trésor. Il était arrivé à se convaincre que mon père l'avait caché dans sa demeure. Alors, il releva le plan de la maison de la façon la plus exacte. Il remarqua que la hauteur extérieure du bâtiment était de 74 pieds, mais en additionnant la hauteur de chaque étage et en tenant compte de l'épaisseur des planchers, qu'il avait déterminé par des sondages, il n'arrivait jamais à avoir comme élévation à l'intérieur que 70 pieds. Il manquait donc 4 pieds qui ne pouvaient se retrouver qu'au sommet de la maison. Il perça un trou dans le plafond d'une chambre située au dernier étage et découvrit, comme il s'y attendait, un petit grenier inconnu de tous. Là était le coffre renfermant le trésor. Il le descendit alors par le trou dans la pièce située au-dessous, et c'est là qu'il est resté depuis. Il estime que la valeur des pierres atteint au moins une douzaine de millions.
À l'énoncé de ce chiffre énorme, nous nous regardâmes tous avec stupéfaction. Miss Boston, une fois ses droits reconnus, allait devenir, de pauvre institutrice qu'elle était jusqu'alors, une riche héritière. Assurément, un véritable ami eût dû se réjouir d'une aussi bonne nouvelle, et cependant, je dois l'avouer à ma honte, l'égoïsme prit le dessus chez moi et je sentis mon cœur traversé par une souffrance aiguë. Je murmurai quelques congratulations indistinctes, et je restai atterré, la tête penchée sur ma poitrine, sourd au bavardage de notre compagnon. Celui-ci était évidemment un hypocondriaque de premier ordre, et j'avais vaguement conscience qu'il détaillait tout au long les symptômes qui l'inquiétaient en me suppliant de lui donner mon avis sur la composition et sur les effets des innombrables élixirs dont il portait quelques spécimens dans une pharmacie de poche. J'espère qu'il ne se rappellera jamais tout ce que j'ai pu lui répondre ce soir-là. Holmes prétend qu'il m'a entendu le mettre en garde contre l'immense danger qu'il pouvait courir en prenant plus de 2 gouttes d'huile de ricin, tandis que je lui recommandais, comme calmant, la strychnine à haute dose. Quoi qu'il en soit, ce me fut un soulagement de sentir le fiacre s'arrêter et de voir le cocher ouvrir la portière. « Voici Pondicherry Lodge, Miss Marston, dit M. Thaddeus Sholto. » Et il tendit la main à la jeune fille pour l'aider à descendre. Chapitre 5. Le drame de Pondicherry Lodge. Il était près de 11 heures quand nous arrivâmes au lieu où nous attendait le dénouement tragique des aventures de cette nuit. Nous avions laissé loin derrière nous le brouillard humide qui recouvrait la grande cité, et la nuit était passablement belle. Un vent chaud soufflait de l'ouest, et de gros nuages montaient lentement dans le ciel, laissant de temps en temps le croissant de la lune jeter des lueurs intermittentes. On y voyait assez pour se diriger. Cependant, Thaddeus Sholto prit une des lanternes de la voiture pour mieux éclairer notre chemin. Pondicherry Lodge était situé au milieu d'un jardin qu'entourait un mur très élevé, hérissé de tessons de verre. Une simple porte, très étroite et garnie de ferrures, y donnait seul accès. Notre guide frappa d'une manière particulière en faisant ce « rat-tat-tat » par lequel les facteurs ont coutume de s'annoncer. « Qui va là ?» s'écria de l'intérieur une voix bourrue. « C'est moi, McMurdo. Ne reconnaissez-vous donc plus ma manière de frapper ?» On entendit la voix grommeler sourdement, puis les clés s'entrechoquèrent, et la porte tourna lentement sur ses gonds, laissant voir sur le seuil un homme de taille moyenne, mais remarquablement large d'épaule. À la lueur de la lanterne, nous distinguâmes une tête aux mâchoires saillantes, à l'œil clignotant et faux. « C'est vous, monsieur Thaddeus ? Quels sont ces gens qui vous accompagnent ? J'ai aucun ordre du maître à leur sujet. » « Vraiment, McMurdo, cela m'étonne. J'avais prévenu hier soir mon frère que j'amènerais quelques amis avec moi. » « Oh, il n'est pas sorti de sa chambre toute la journée, monsieur Thaddeus, et je vous le répète, j'ai pas d'ordre. Vous savez qu'il m'est impossible de violer ma consigne. Vous, vous pouvez entrer si vous voulez, mais vos amis resteront où ils sont. » C'était là un contretemps inattendu. Thaddeus Sholto regarda autour de lui d'une façon perplexe. « Mais c'est trop fort, McMurdo, dit-il. Si je me porte garant pour eux, cela doit vous suffire, il me semble. D'ailleurs, voici une jeune fille qu'on ne peut vraiment laisser à cette heure se morfondre au milieu de la route. »« Désolé, monsieur Thaddeus, reprit le portier d'un ton ferme. Il y a des gens qui peuvent être de vos habits à vous et pas être ceux de mon maître. Il me paie bien pour que je fasse mon service et je le fais en conscience. Or, je connais aucun des personnes qui sont là. Oh, si, vous en connaissez, McMurdo, s'écria Sherlock Holmes fort à propos, car je ne pense pas que vous ayez pu m'oublier. Ne vous rappelez-vous pas l'amateur qui, il y a 4 ans, le soir où on donnait votre bénéfice à Allison, a fourni 3 assauts contre vous?
Quoi? « Vous seriez Monsieur Sherlock Holmes ?» s'écria l'ancien lutteur.
« Bon Dieu, comment ai-je pu pas vous reconnaître? Si au lieu de rester là tranquillement derrière les autres, vous vous étiez approché et vous m'aviez donné un certain coup de revers sur la mâchoire, je vous aurais reconnu sans hésiter. Oh, on peut dire que vous avez gaspillé les dons du bon Dieu, vous. Comme vous auriez pu viser haut dans la partie si vous aviez voulu. »
« Vous voyez, Watson, me dit Holmes en riant, si le reste vient à me manquer, j'aurai toujours une profession savante ouverte devant moi. Et maintenant, je suis sûr que ce brave camarade ne va pas nous laisser ainsi dehors, exposés au froid. »
« Entrez, entrez donc, monsieur, vous et vos amis, répondit-il. Je vous fais mes excuses, monsieur Thaddeus, mais j'ai des ordres et sévères. Il fallait savoir qui étaient vos amis avant de les introduire. »
Une fois entrés, nous suivîmes une allée sablée qui serpentait dans un jardin mal tenu pour aboutir à une construction quadrangulaire, fort massive et sans aucune architecture. Cette bâtisse se trouvait dans une obscurité complète, sauf un angle éclairé par la lune dont les rayons se reflétaient sur une des fenêtres du grenier. Le lugubre aspect de cet énorme bâtiment, plongé dans un silence de mort, donnait le frisson. Tout le premier, Sholto semblait mal à son aise, et la lanterne vacillait dans sa main tremblante.
« Je n'y comprends rien, dit-il. Faut qu'il y ait eu quelque malentendu. J'avais bien spécifié à Bartholomé que nous viendrions le voir, et cependant ses fenêtres ne sont pas éclairées. « Oh, je ne sais vraiment pas ce que cela veut dire. »
« L'entrée de sa maison est-elle toujours aussi difficile à forcer ?» demanda Holmes.
« Oui, il a continué les traditions de mon père. Oh, il était son favori, vous savez. Et je m'imagine quelquefois que le major a dû lui en dire plus long qu'à moi. Voici la fenêtre de Bartholomé, là, de ce côté,
éclairé par la lune. Mais il me semble bien qu'il n'y a aucune lumière à l'intérieur.
Aucune, dit Holmes. Seulement j'aperçois une lueur à cette petite fenêtre près de la porte.
Ah, c'est la chambre de la femme de charge de la vieille Mrs. Burston. Ah, elle va pouvoir nous renseigner. Seulement veuillez m'attendre quelques secondes ici, car comme elle n'est pas prévenue, nous lui ferions une peur atroce si nous entrions tous à la fois. Mais chut, qu'entends-je ?
Il éleva la lanterne. Sa main tremblait tellement que les rayons de lumière dansaient tout autour de nous. Miss Marston saisit mon bras et nous restâmes immobiles, le cœur battant, l'oreille tendue. De la sombre demeure s'élevait un son plaintif, désolé, qui perçait le silence de la nuit. C'étaient les gémissements aigus d'une femme affolée par la peur.
La voix de Madame Burston ? Murmura Sholto. C'est la seule femme qui habite la maison. Restez là, je serai de retour dans un instant.
Il se précipita vers la porte et frappa d'une manière particulière. Une grande femme déjà âgée vint lui ouvrir et tressaillit de joie en l'apercevant.
« Oh, monsieur Thaddeus, que je suis heureuse de vous voir! Que je suis donc heureuse, mon bon monsieur Thaddeus !»
Et nous l'entendîmes réitérer ses exclamations jusqu'au moment où, la porte se refermant, elle ne parvint plus jusqu'à nous que comme un murmure lointain et monotone. Notre guide nous avait laissé la lanterne. Holmes la promena lentement autour de lui, examinant tout soigneusement depuis la maison jusqu'au tas de fumier répandu dans le jardin. Miss Marston resta seule avec moi, sa main dans la mienne. Quelle chose singulière que l'amour! Nous nous étions jamais vus avant ce jour, nous n'avions jamais échangé ni un mot ni un regard de tendresse, et cependant, à l'heure où nous sentions un danger planer au-dessus de nous, d'elle-même nos mains s'étaient cherchées. Bien souvent depuis, je m'en suis étonné. Mais à ce moment, il me parut tout simple de me rapprocher d'elle, comme elle de son côté, ainsi qu'elle me l'a souvent répété, vint d'instinct chercher auprès de moi aide et protection. Nous étions donc là, comme deux enfants, la main dans la main, et nos cœurs se sentaient heureux en dépit des sombres mystères qui nous environnaient.
« Quel étrange endroit !» dit-elle en promenant ses regards autour d'elle.
« En effet, répondis-je, c'est comme si tous les mulots d'Angleterre s'y étaient donné rendez-vous. Cela me rappelle une colline que j'ai vue près de Ballarat où avaient opéré des chercheurs d'or.
Oh, « L'aspect le même est pour la même raison, dit Holmes. Au lieu de chercheurs d'or, ce sont des chercheurs de trésors qui ont tout bouleversé ici. Pensez donc qu'ils ont travaillé pendant 6 ans. » Qu'y a-t-il rien d'étonnant à ce que ce jardin soit retourné comme une carrière de sable ?
À ce moment, la porte de la maison s'ouvrit violemment et Thaddeus Sholto bondit vers nous, les bras levés au ciel avec l'expression de la plus vive terreur.
« Il est arrivé un malheur à Bartholomé ! » s'écria-t-il. « Oh, oh, j'ai trop peur ! Ces émotions me tueront !»
Il pleurait presque dans sa frayeur. Et cette figure malingre et grimaçante qui émergeait du large collet d'Astrakhan semblait celle d'un enfant peureux implorant protection.
« Entrons dans la maison !» dit Holmes d'un son ton autoritaire. « Oui, je vous en prie !» supplia Thaddeus Sholto. « Pour ma part, je suis incapable de prendre la moindre décision !»
Nous le suivîmes tous dans la chambre de la femme de charge située à gauche dans le corridor. La vieille femme, à moitié folle d'inquiétude, se promenait de long en large en se tordant les mains. Mais la vue de Miss Marston la sembla la calmer un peu.
Ah, « Que Dieu bénisse votre doux et tendre visage » s'écria-t-elle en sanglotant nerveusement. « Oh, cela me fait du bien de vous voir !» je viens de passer une si terrible journée. »
Notre compagne caressa cette main émaciée qui portait les marques du travail journalier, tout en murmurant ce que son cœur de femme lui suggérait pour réconforter la pauvre créature. Une faible rougeur vint colorer les joues pâles de cette dernière qui reprit « Monsieur s'est enfermé à clé et ne veut pas me répondre. Toute la journée, j'ai attendu qu'il m'appelât, car il défend en général qu'on le dérange, mais il y a une heure. Craignant qu'un malheur ne lui fût arrivé, je suis monté au laboratoire et j'ai regardé par le trou de la serrure. « Allez, monsieur Thaddeus, allez-y et voyez vous-même. Voilà 10 ans que je suis dans la maison. » J'ai connu M. Bartholomé heureux, je l'ai connu malheureux, mais jamais je lui ai vu une figure comme celle-là. »
Sherlock Holmes prit la lampe et nous précéda. Thaddeus Sholto tremblait tellement qu'on entendait ses dents s'entrechoquer. Je fus même obligé de passer mon bras sous le sien pour l'aider à monter l'escalier tant ses jambes lui refusaient tout service. Deux fois, Holmes tira sa loupe de sa poche et examina attentivement, sur les nattes posées en guise de tapis, ce qui me semblait à moi être tout simplement de petits amas de poussière. Il montait lentement, marche par marche, tenant la lampe près de terre et promenant son regard perçant à droite et à gauche. Miss Morstan était restée en bas avec la tremblante Mrs. Bearstone. Au troisième étage, l'escalier se terminait par un long couloir orné à droite d'un grand panneau de tapisserie indienne et sur lequel à gauche s'ouvraient 3 portes. Holmes continuait à s'avancer de la même manière, lente et méthodique. Nous nous tenions derrière lui en le suivant de près, tandis que nos ombres allongées se profilaient dans le corridor d'une façon fantastique. La 3e porte était celle que nous cherchions. Holmes y frappa, sans recevoir de réponse, et essaya alors de tourner la poignée. Mais la serrure était fermée à l'intérieur, et même un solide verrou avait été tiré, ainsi que nous pûmes nous en convaincre, en appliquant la lampe contre la rainure. On pouvait cependant voir par le trou de la serrure. Alors Sherlock Holmes, s'étant penché pour regarder, se releva aussitôt en aspirant bruyamment. « Il y a quelque chose de diabolique dans tout ceci, Watson, » dit-il, plus ému que je ne l'avais jamais vu. « Qu'en pensez-vous ? » Je regardai à mon tour par l'étroite ouverture et je reculai d'horreur. Un rayon de lune pénétrait dans la chambre et l'éclairait ainsi d'une lueur indécise et blafarde. Face à moi, et comme suspendu en l'air, car tout le reste du corps demeurait dans l'ombre, je n'apercevais qu'une tête, et cette tête était celle de notre compagnon Thaddeus. Même crâne pointu, même calvitie, même couronne de cheveux roux, même apparence exsangue. Mais terrible sourire, une grimace extraordinaire, en contractait tous les traits, et dans cette chambre silencieuse, éclairée seulement par un rayon de la lune, ce spectacle était terrifiant. Telle était la ressemblance entre ce visage et celui de notre petit ami, que je me retournai pour m'assurer qu'il était toujours bien avec nous. Je me rappelais alors que, d'après ce qu'il nous avait dit, son frère et lui étaient jumeaux. « Mais c'est horrible !» murmurai-je à Holmes. « Que faut-il faire ?»« Il faut ouvrir la porte !» répondit-il. Et se jetant dessus, il pesa de toutes ses forces contre elle. Elle craqua, grinça, mais ne céda point. Nous nous arc-boutâmes alors tous les deux, et cette fois elle s'ouvrit brusquement. Nous étions dans la chambre de Bartholomé Sholto. Cette pièce avait servi de laboratoire de chimie. Contre le mur en face de la porte s'alignait sur une étagère une double rangée de fioles bouchées à l'émerie, et la table était couverte de petites lampes Bunsen, d'éprouvettes et de cornues. Dans les coins, on voyait des bonbonnes d'acide enveloppées de paille. L'une d'elles semblait avoir été fêlée, car un liquide noirâtre s'en était échappé et avait formé une espèce de ruisseau qui répandait dans l'air une odeur âcre rappelant celle du goudron. Un escabeau placé sur un amoncellement de plâtras donnait accès à un trou ouvert dans le plafond et assez large pour livrer passage à un homme. Au pied de cet escabeau gisait une longue corde à nœuds. Devant la table, effondré dans un fauteuil, le maître de la maison était assis, la tête penchée sur l'épaule gauche, un sourire énigmatique et spectral errant sur sa figure. Il était déjà raide et froid et avait certainement cessé de vivre depuis plusieurs heures. Je remarquai que non seulement ses traits, mais ses membres même, étaient tordus et contournés de la plus étrange façon. Près de lui, sur la table, on voyait une arme singulière. C'était un bâton, fait d'un bois noir et résistant, à l'extrémité duquel on avait grossièrement fixé, à l'aide d'un bout de filin, une pierre en forme de marteau. À côté, un chiffon de papier portait quelques mots griffonnés. Holmes y jeta les yeux et nous le tendit. « Voyez, » dit-il d'un ton significatif. À la lumière de la lanterne, je pus lire avec un frisson d'horreur ces mots, « La marque des quatre. »« Au nom du ciel, que signifie tout ceci ? » m'écriai-je. « Cela signifie assassinat, » dit-il en se penchant sur le cadavre. « Ah, je m'en doutais, voyez donc !» Il me désigne une longue pointe brunâtre enfoncée dans la peau juste au-dessus de l'oreille. Ah, « cela ressemble à une épine, » dis-je. « C'en est une, en effet. Vous pouvez la retirer, mais faites bien attention, car elle doit être empoisonnée. » Je la pris entre le pouce et l'index, et je l'arrachai si facilement que c'est à peine si elle laissa une trace derrière elle. Seule une petite tache de sang marquait l'endroit de la piqûre. Tout ceci est un mystère indéchiffrable pour moi, dis-je. Plus nous avançons et plus il s'obscurcit. Bien au contraire, répondit Holmes. Il s'éclaircit à chaque pas. Il ne me manque plus que quelques anneaux pour reconstituer tout l'enchaînement des faits. Nous avions à peu près oublié la présence de notre compagnon depuis que nous étions entrés dans la chambre. Il se tenait toujours sur le seuil de la porte, se tordant les mains, gémissant sourdement et nous offrant ainsi l'image vivante de la terreur. Tout à coup, il poussa un cri strident. « Le trésor est enlevé, » dit-il. « Ils ont volé le trésor. Voici le trou par lequel nous l'avons fait passer. » J'ai aidé mon frère. Je suis le dernier qui l'ai vu hier soir et je l'ai entendu fermer sa porte pendant que je descendais. Quelle heure était-il ? Il était 10 heures. Et maintenant, le voilà mort et la police va être appelée. Et je vais être soupçonné d'être pour quelque chose dans tout cela. Oh, oui, oui, bien sûr, vous ne le croyez pas, vous, messieurs. N'est-ce pas, vous ne me soupçonnez pas? Est-ce que je vous aurais amené ici si j'avais été coupable? Oh, mon Dieu, je crois que je devais dire fou. » Il levait les bras au ciel et agitait les jambes comme un épileptique. « Vous n'avez aucune raison de vous tourmenter, monsieur Sholto, » dit Holmes avec bonté en mettant la main sur son épaule. « Suivez seulement mon conseil. Prenez une voiture et allez raconter toute l'affaire à la police. » En lui proposant de l'aider autant que vous le pourrez. Nous allons attendre ici votre retour. » Le petit homme obéit comme un automate. et nous l'entendîmes dégringoler l'escalier dans l'obscurité. Chapitre 6. Théorie de Sherlock Holmes.
« Maintenant, Watson, » dit Holmes, en se frottant les mains, « nous avons une bonne demi-heure avant nous. Tâchons d'en profiter. Comme je vous l'ai dit, mon opinion est à peu près faite, mais il ne faut pas que ma présomption m'entraîne sur une fausse piste. Quelque simple que paraisse l'affaire, elle peut enfermer bien des dessous mystérieux.
« Vous trouvez cela simple, m'écriai-je ? »
« Sans aucun doute, » affirma-t-il en prenant le ton doctoral d'un professeur qui fait une conférence. « Asseyez-vous là, dans ce coin, de façon que nos empreintes ne puissent pas me gêner plus tard. Maintenant, commençons notre petit travail. En premier lieu, comment ces gens ont-ils pu pénétrer ici, et puis comment ont-ils pu en sortir ? La porte n'a pas été ouverte depuis hier au soir. Examinons la fenêtre. »
Il prit la lampe pour mieux s'éclairer, tout en marmottant quelques réflexions qui s'adressaient plutôt à lui-même qu'à moi.
« La fenêtre est fermée à l'intérieur. La boiserie paraît très solide. Il n'y a pas de charnière apparente à l'extérieur. Voyons, ouvrons-la. Pas de gouttière ou de tuyau. Le toit hors de portée. » Cependant, un homme est entré par cette fenêtre puisqu'il a laissé l'empreinte de son pied sur le rebord. Il avait plu un peu hier soir et voici une marque ronde toute boueuse. La voilà de nouveau sur le plancher et encore là près de la table. Voyez-vous même, Watson, quel précieux indice! Je regardais ces traces aux contours parfaitement définis. Mais... « Ce n'est pas l'empreinte d'un pied, dis-je. »«
Non, mais cela m'en dit bien plus long, car c'est celle laissée par une jambe de bois. Regardez, sur le rebord de la fenêtre, vous voyez la marque d'une chaussure épaisse, garnie d'un gros talon ferré, et à côté, cette autre marque toute ronde. L'homme à la jambe de bois aurait donc passé par là. »«
Parfaitement, mais il n'était pas seul. » Il a eu un aide, et un aide fort habile, qui a joué un rôle important dans l'affaire. Seriez-vous capable d'escalader ce mur, vous, docteur ?
J'ouvris la fenêtre et je regardais. La lune donnait encore sur cette partie de la maison. Nous étions au moins à 20 mètres du sol, et sur ce mur de briques lisses, je ne voyais ni arête ni creux qui permît au pied de se poser. « Ah, c'est absolument impossible, » répondis-je.
« Sans aide, évidemment. Mais supposez que vous ayez dans cette chambre un ami qui vous jeta une grosse corde, semblable à celle que je vois là dans le coin, après l'avoir assujetti par son extrémité à ce fort crochet fiché dans le mur. Il me semble qu'alors, avec un peu d'adresse, vous pourriez vous hisser jusqu'ici, même avec une jambe de bois. Vous pourriez aussi bien redescendre de la même façon. » Votre complice remonterait alors la corde, la détacherait du crochet et la jetterait dans un coin, puis, après avoir fermé la fenêtre, il reprendrait le chemin par lequel il était venu. « Je dois ajouter, » continua-t-il en examinant la corde, « que notre invalide, tout en sachant bien grimper, ne doit pas être un marin de profession. Ses mains sont loin d'être endurcies. Car ma loupe me permet d'apercevoir plusieurs taches de sang, et surtout à l'extrémité du câble. D'où je conclus qu'en se laissant glisser trop rapidement en bas, il s'est arraché la peau des mains.
Tout cela est fort bien, dis-je, mais l'énigme s'épaissit de plus en plus. Quel est cet aide mystérieux? Comment est-il entré dans la chambre?
Oui, l'aide, répéta Holmes pensif. C'est certainement un être bien intéressant à étudier, et grâce à lui, l'affaire sort tout à fait de l'ordinaire. Il apporte un élément nouveau dans les annales criminelles de notre pays, quoique des cas semblables se soient rencontrés dans les Indes, et si j'ai bonne mémoire, en Sénégambie.
Mais comment donc s'est-il introduit ici, répétai-je. La porte est fermée, la fenêtre est inaccessible. Serait-il entré par la cheminée ?
« J'y ai déjà pensé, » répondit Holmes, « mais
L'ouverture est bien trop étroite.
Alors, par où ? Persistai-je.
Vous ne voulez pas appliquer mes procédés, dit-il en secouant la tête. Combien de fois ne vous ai-je pas dit qu'une fois toutes les hypothèses matériellement inadmissibles écartées, c'est parmi celles qui restent, quelque improbable qu'elles puissent être, qu'il faut chercher la vraie solution. Ici, nous savons que cet individu n'a pu entrer ni par la porte, ni par la fenêtre, ni par la cheminée. Il n'a pas pu davantage se dissimuler dans cette pièce où il est impossible de se cacher. Par où donc est-il venu ? Ah ! Par le trou du plafond, m'écriai-je. Naturellement. Il n'y a pas d'autre explication plausible. Ayez la bonté de tenir un instant cette lampe et je vais inspecter la chambre au-dessus, la cachette qui renfermait le trésor. Il monta sur l'escabeau et, saisissant une poutre de chaque main, se hissa dans le grenier. Puis, se courbant à plein ventre, il prit la lampe que je lui tendais et je le suivis de la même façon. La pièce dans laquelle nous nous trouvions avait environ 3 mètres sur 2. Le plancher était formé par des poutres entre lesquelles s'étendait la mince couche de latte et de plâtre, de telle sorte qu'en marchant, il fallait sauter d'une solive à l'autre. Le plafond se terminait en arêtes aiguës et suivait évidemment les contours du toit. Du reste, aucun meuble. Seule la poussière de plusieurs années s'était accumulée sur le sol en couches épaisses.
« C'est bien cela, » dit Sherlock Holmes en touchant de sa main la paroi du mur. « J'aperçois une trappe qui donne à l'extérieur. Soulevons-la, et voici le toit lui-même qui s'incline en pente assez douce. Nous connaissons donc le chemin qu'a suivi notre numéro 1. Voyons si nous ne découvrons pas d'autres indices révélateurs. »
Il posa la lampe par terre, et aussitôt, pour la seconde fois de la soirée, une expression de surprise intense se dessina sur ses traits. Pour moi, dès que mon regard eut suivi la direction du sien, je me sentis frissonner de la tête aux pieds. On distinguait par terre des empreintes nombreuses et très nettes, faites par un pied nu, bien dessiné, parfaitement conformé, mais dont les dimensions n'étaient pas moitié aussi grandes que celles d'un pied appartenant à un homme de taille moyenne. « Holmes, lui dis-je à l'oreille, un enfant a été mêlé à cet horrible crime. » En une seconde, Holmes était devenu maître de lui. « J'ai eu un instant d'hésitation, dit-il, quoique cependant tout cela soit fort naturel. » Si ma mémoire ne m'avait trahi, j'aurais dû m'y attendre, mais nous n'avons plus rien à voir ici. Redescendons. Mais comment donc expliquez-vous de telles empreintes ? Demandai-je avec curiosité, lorsque nous nous retrouvâmes dans la pièce inférieure.
Mon cher Watson, me dit-il avec un mouvement d'impatience, tâchez donc d'analyser un peu les faits par vous-même. Puisque vous connaissez ma méthode, appliquez-la, et il sera ensuite intéressant de comparer les résultats que nous aurons obtenus chacun de notre côté.
Oh, je ne puis trouver aucune explication rationnelle de tout ceci, répondis-je.
Bon, elle s'imposera bientôt à vous, reprit-il d'un ton léger. Quoique je crois n'avoir plus rien d'important à faire ici, je ne veux cependant rien négliger.
Il tira de sa poche une loupe et un mètre, puis, se mettant à genoux, il parcourut ainsi la chambre d'un bout à l'autre, prenant des mesures, appliquant son nez long et mince contre le plancher, comparant et examinant tout de ses yeux perçants, enfoncés dans leur orbite comme ceux d'un oiseau de proie. Ses mouvements rapides, quoique silencieux et discrets, ressemblaient à ceux d'un limier, cherchant à démêler la voie, et je pensais quel terrible criminel il eût fait s'il avait tourné contre les lois l'énergie et la sagacité qu'il mettait à les défendre. Tout en travaillant ainsi, il se murmurait à lui-même des phrases inintelligibles, quand soudain il poussa un cri de joie.
« Décidément, la veine est pour nous, » dit-il. « Tout va se simplifier maintenant. » Le numéro 1 a eu la chance de mettre le pied dans du goudron. Voyez son empreinte dans cette mare noirâtre formée par le liquide qui s'est écoulé de la bonbonne. Eh bien, nous le tenons, voilà tout. Je connais un chien qui pourrait suivre une telle piste jusqu'au bout du monde. Étant donné qu'une meute est capable de chasser à travers tout un pays un hareng sort traîné par terre, jusqu'où un chien entraîné spécialement pourra-t-il suivre une odeur aussi forte que celle-ci? Cela ressemble à l'énoncé d'une règle de trois. Mais taisons-nous, car voici les respectables soutiens de la loi. Le son de pas pesants, le bourdonnement de grosses voix, montaient du rez-de-chaussée en même temps que la porte d'entrée se refermait lourdement. « Avant qu'ils arrivent, » dit Holmes, « tâtez donc les bras et les jambes de ce pauvre diable. Que sentez-vous ?»«
Les muscles sont raides et durs comme du bois, » répondis-je.
« Parfaitement. Ils sont bien plus contractés que dans le cas d'une mort naturelle. De plus, voyez cette figure tordue, ce sourire étrange que les anciens auteurs appellent le risus sardonicus. Et dites-moi la conclusion que vous tirez de tout cela. »
La mort est due à un poison végétal d'une violence extrême, répondis-je, à une substance comme la strychnine, produisant des effets tétaniques.
C'est bien la première idée que j'ai eue en apercevant la contraction des muscles et de la face. Aussi ai-je commencé par chercher comment le poison avait été administré. Et vous l'avez vu, j'ai aussitôt découvert cette épine qui a été enfoncé ou plutôt lancé derrière l'oreille. Je dis lancé car, regardez, si la partie du crâne où elle se trouvait est juste dans la direction du trou fait dans le plafond. Et maintenant, examinez cette épine.
Je la pris avec soin et la présentai à la lumière de la lampe. Elle était longue, pointue, noirâtre, et la pointe semblait avoir été enduite avec une substance gommeuse. L'extrémité opposée avait été taillée et arrondie d'une façon spéciale à l'aide d'un couteau.
« Est-ce une épine qui pousse en Angleterre ? » demanda-t-il.
« Ah non, certainement. »
« Alors, avec toutes ces données, vous devez pouvoir arriver à une conclusion juste.
Mais voici les agents officiels. »
Nous autres irréguliers, nous n'avons qu'à battre en retraite.
Les pas qui s'étaient rapprochés peu à peu résonnaient maintenant bruyamment dans le corridor, et un homme de haute taille, très fort, vêtu d'un complet gris, entra brusquement dans la chambre. La figure rouge, l'aspect sanguin, l'air convaincu de son importance, il cligna ses petits yeux, soulignés par de grosses poches bouffies, en promenant çà et là un regard perçant. Sur ses talons marchait un agent en uniforme, et derrière eux venait le pauvre Thaddeus Sholto, encore tout tremblant.
« En voilà une affaire !» s'écria ce gros homme d'une voix rude et enrouée. « En voilà une belle affaire, mais qui diable est là ? Oh, ça, cette maison est bourrée comme un terrier de lapin !»
Ah, il me semble que vous pourriez me reconnaître, monsieur Stranger Jones, dit Holmes froidement.
Ah, mais certainement, vous êtes monsieur Sherlock Holmes, le théoriste. Si je vous reconnais, je n'oublierai jamais le cours que vous nous avez fait sur les causes, les effets, les déductions et tout le tremblement dans l'affaire des bijoux de Bishopgate. Il est vrai que vous nous avez mis sur la vraie piste. Mais avouez que le hasard vous a mieux servi que votre habileté.
Bah, mon Dieu, c'est un raisonnement bien simple qui m'a donné la solution du problème.
Allons, reconnaissez-le donc sans fausse honte. Mais cette fois, qu'est-ce qui nous attend? Une affaire médiocre, il me semble, bien médiocre. Un crime épouvantable, c'est vrai, seulement impossible d'échafauder là-dessus la moindre théorie.
C'est une veine que je me sois justement trouvé à Norwood pour raison de service. J'étais dans le poste même de police quand on est venu demander du secours. De quoi vous pensez-vous que cet individu soit mort ?
Oh, ce n'est pas un cas où je puisse échauffer quelques théories, répliqua Holmes sèchement.
Voyons, non, ne vous fâchez pas. Je conviens qu'il vous arrive assez souvent de m'être dans le mille, mais qu'est-ce qu'on m'a dit ? La porte fermée à l'intérieur, des bijoux valant une douzaine de millions disparus, et la fenêtre, comment était-elle ?
Fermée seulement, un escabeau se trouvait devant.
Eh bien, si elle était fermée, l'escabeau ne signifie rien. Cela tombe sous le sens. Après tout, l'homme a bien pu mourir d'une attaque.
Ouais, mais il y a ces bijoux qui manquent. Oh, j'ai une idée. Voyez-vous, j'ai de temps en temps, comme cela, des intuitions soudaines. Veuillez sortir un instant, monsieur Sholto, et vous aussi, sergent. Votre ami peut rester, monsieur Holmes. Que penseriez-vous de l'hypothèse suivante ? Sholto avoue être resté avec son frère hier soir. Ce frère est mort subitement d'une attaque et Sholto a emporté le trésor. Hein ? Que dites-vous de cela ?
Je dis qu'évidemment le mort s'est ensuite levé pour aller tranquillement fermer la porte à double tour.
C'est vrai, il y a là une lacune. Soyons avant tout logiques. Ce Thaddeus Sholto était avec son frère et d'après ce que nous savons, ils ont eu une discussion. Mais voilà que l'autre est mort et que les bijoux se sont envolés. Or, depuis que Thaddeus a quitté son frère, personne n'a revu ce dernier et le lit qu'il occupait n'a pas été défait. De plus, Thaddeus paraît bouleversé et son aspect, comment dirais-je, peu sympathique. Vous voyez la façon dont je tends mon filet au-dessus de Thaddeus ? Les mailles commencent à l'enserrer étroitement.
Vous n'êtes pas encore complètement au courant de tous les détails de l'affaire, dit Holmes. Cette épine, que j'ai les meilleures raisons de croire empoisonnée, était fichée dans le crâne de ce malheureux à l'endroit où vous en voyez encore la marque. Ce papier, avec l'inscription que vous pouvez y lire, était placé sur la table et à côté se trouvait cette arme bizarre, terminée par une sorte de massue en pierre. Comment cela concorde-t-il avec votre théorie ?
Bon, cela la confirme. En tout point, répliqua le gros détective d'un ton important. La maison est pleine de curiosités indiennes. Thaddeus a monté ici la massue. Si l'épine est empoisonnée, il a pu mieux que personne s'en servir pour accomplir le crime. Le papier n'est évidemment qu'une frime, un simple trompe-l'œil.
Le seul point à élucider est de savoir comment il est sorti. Ah ! Mais voilà, je perçois une ouverture dans le plafond. Avec une agilité que son apparence massive n'aurait guère fait soupçonner, il s'élança sur les marches de l'escabeau et s'introduisit dans le grenier. Une seconde après, il nous annonçait d'une voix triomphante qu'il avait découvert la porte donnant sur le toit.
Il est capable de tomber à peu près juste, remarqua Holmes en haussant les épaules, car il a parfois des éclairs de bon sens. Comme dit le proverbe français, il n'y a pas de sot si incommode que ceux qui ont de l'esprit.
Vous voyez bien, dit Athelney Jones en apparaissant de nouveau au sommet de l'escalier. Il vaut mieux s'en rapporter aux faits qu'à toutes les théories possibles. Voilà mon opinion pleinement confirmée. Il existe une trappe communiquant avec le toit, elle est restée entrouverte.
C'est moi qui l'ai ouverte.
Oh, vraiment, vous l'aviez donc déjà trouvée ?
Cette découverte sembla le déconcerter un peu.
Quoi qu'il en soit, elle nous indique le chemin que l'autre individu a pris pour s'en aller. Agent ! Cria-t-il.
Voilà, monsieur, répondit une voix dans le corridor.
Priez donc, monsieur Sholto, de revenir ici.
Monsieur Sholto, je dois en conscience vous prévenir que désormais toutes vos paroles pourront être interprétées contre vous. Car, au nom de la reine, je vous arrête sous l'inculpation du meurtre commis sur la personne de votre frère.
Oh, je vous l'avais bien dit, s'écria le pauvre petit être en se tordant les mains et en jetant sur nous des regards égarés.
N'ayez aucune inquiétude, monsieur Sholto, dit Hans. Je crois pouvoir me faire fort de prouver clairement votre innocence.
Oh, les gardes promettent plus que vous ne pourrez faillir, monsieur l'amateur de théorie. Prenez garde, dit le détective d'un ton aigre. Cela vous sera peut-être plus difficile que vous ne le pensez.
Monsieur Jones, non seulement je ferai éclater l'innocent de ce malheureux, mais pour votre gouverne, je puis même vous donner le nom et le signalement de l'un des deux individus qui ont pénétré hier soir dans cette pièce. Son nom doit être Jonathan Small. C'est un homme qui n'a qu'une instruction rudimentaire. Il est petit, énergique et amputé de la jambe droite. Sa jambe de bois est usée du côté intérieur. La chaussure qu'il porte au pied gauche est de fabrication grossière, carré du bout avec un talon cerclé de fer. Enfin, il est entre deux âges, fortement bronzé par le soleil, et sort du bagne. Ces indications sommaires pourront vous être de quelque utilité, surtout si vous notez en outre qu'il doit avoir la peau intérieure des mains arrachées sur une certaine largeur. Quant à son compagnon...
Ah ? Il a un compagnon ?
Interrompit Athelney Jones en ricanant. Qu'il fût facile de voir l'impression produite sur lui par le ton assuré d'Holmes. Son compagnon, reprit celui-ci en pivotant sur ses talons, est un personnage fort étrange, mais j'espère pouvoir vous les présenter tous les deux avant peu. Voulez-vous venir un instant, Watson? J'aurai un mot à vous dire.
Il m'emmena jusque sur le palier de l'escalier.
Cet événement inattendu, dit-il, nous a fait perdre de vue le but réel de notre excursion.
Ah, c'est à quoi je pensais, répondis-je. Miss Marston ne peut pas rester plus longtemps dans cette sinistre maison.
Non, il faut que vous la rameniez chez elle. Elle demeure chez Mrs. Cecil Forrester, dans le bas de Camberwell, assez près d'ici, comme vous voyez. Je vous attendrai dans le cas où vous voudriez revenir. « Mais peut-être vous sentez-vous trop fatigué. »«
Ah, en aucune façon. D'ailleurs, je crois qu'il me serait impossible de dormir avant d'en savoir davantage sur cette affaire si extraordinaire. J'ai déjà vu bien des spectacles effrayants, mais la succession rapide de tant d'aventures étranges m'a, je vous suis, ébranlé tous les nerfs. Aussi au point où nous en sommes, je voudrais poursuivre l'enquête avec vous. »
Votre aide me sera très utile, répondit-il. Nous travaillerons pour notre compte et nous laissons ce brave Jones exulter en présence de toutes les chimères qui se forgent. Quand vous aurez ramené Miss Morton, je voudrais que vous alliez jusqu'à Pinchin Lane, numéro 3. C'est sur les bords de l'eau dans le quartier de Humbeth. La troisième maison sur la droite est celle d'un empailleur nommé Sherman. Vous verrez sur la fenêtre une belette saisissant un jeune lapin. Secouez le vieux Sherman, dites-lui bonjour de ma part, et après lui avoir expliqué que j'ai besoin de Toby tout de suite, ramenez-le ensuite, le dit Toby, avec vous dans la voiture.
Toby est un chien, je suppose.
Oui, une espèce de vilain bâtard, mais qui a un nez extraordinaire. Je préfère son assistance à celle de toute la police de Londres.
C'est bon, je vous le ramènerai, dis-je. Il est 1 heure du matin. Si je puis trouver un bon cheval, je serai de retour avant 3 heures.
Et moi, dit Holmes, je vais voir ce que je puis tirer de Madame Birdstone et du serviteur indien qui, d'après ce que m'a dit M. Thaddeus, couche dans une mansarde voisine. Puis j'étudierai les procédés du fameux Jones et je subirai ses plaisanteries qui, à la vérité, manquent un peu de sel. Mais Goethe,
avec sa grande connaissance des hommes, n'a-t-il pas dit « Nous sommes habitués à voir les gens se moquer de ce qu'ils ne comprennent pas. » Goethe est toujours plein de profondeur.